congressman who took cover. Then we'll look at President-elect Joe Biden's pick to head the Justice Department, Merrick Garland, the judge who Republicans denied a seat on the Supreme Court 5 years ago.
As everyone who watched yesterday's events in Washington now understands, if they did not understand before, the rule of law is not just some lawyer's turn of phrase. It is the very foundation of our democracy.
Then more than 4,000 Americans died from COVID-19 Thursday in the deadliest day of the pandemic anywhere in the world so far. We'll speak to Rebecca Jones, a data scientist who was forced to resign as the lead software developer for Florida's coronavirus data portal after she refused to censor information about Florida's COVID-19 outbreak. Last month, armed police raided her home.
Police, come down now.
Bring
your
children. My children.
All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The United States death toll from COVID-19 topped 4,000 for the first time on Thursday, setting yet another daily world record as top public health official Dr. Anthony Fauci warned the U.S. outbreak will get even worse in the weeks ahead. Arizona is now one of the worst affected parts of the world, with nearly 1% of state residents testing positive for coronavirus in just the past week. In California, the National Guard's assisting Los Angeles County's coroner's office after morgues and mortuaries ran out of storage space for COVID-19 victims. The CDC reported Thursday asymptomatic carriers of coronavirus are responsible for more than half of new infections, a finding that bolsters the urgent need for masks and social distancing. Meanwhile, new research published in the journal Science Immunology shows about 9 out of 10 people have robust immunity to coronavirus 8 months after an infection. It's not yet known if immunity wanes after a longer interval. President Trump said Thursday there would be an orderly transition of government January 20th, though he refused to admit he lost the election to Joe Biden. Trump's concession came in a scripted video statement one day after he incited a mob of thousands to march on Congress to overturn the election results.
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order.
In fact, Maryland Governor Larry Hogan says he repeatedly tried to get permission to deploy National Guard troops to assist at the Capitol Wednesday afternoon after receiving a panicked call from congressional leaders who'd fled to a secure location. He said he was thwarted for over an hour and a half before Pentagon leaders finally allowed him to send in troops. The New York Times reports Trump took no action to authorize the National Guard deployment, with Vice President Mike Pence finally intervening after he was evacuated from the Capitol. On Thursday, President-elect Joe Biden drew comparisons between Trump's crackdown on peaceful protests for Black lives and Wednesday's assault on the Capitol.
No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol.
House Speaker Nancy Pelosi said Thursday she would consider a vote on whether to impeach President Trump if members of his cabinet and Vice President Pence fail to immediately remove him from power under the 25th Amendment. Pelosi formally adjourned the House of Representatives until after Biden's inauguration, January 20th, so any vote on impeachment would require that lawmakers return to Washington. Senate Republican leader Mitch McConnell has adjourned the Senate until January 19th. The United States Capitol Police announced Officer Brian Sicknick, who was hospitalized after Trump's mob attacked him, died of his injuries Thursday evening. The 42-year-old had been on life support. He was one of 50 police officers reportedly injured by marauders on Wednesday. Police arrested just 26 people on Capitol Hill during the insurrection. On Thursday, Capitol Police Chief Stephen Sund said he would quit effective January 16th. Also Thursday, congressional leaders ousted the sergeants at arms of both the House and the Senate. The top federal prosecutor for Washington, D.C. Thursday refused to rule out criminal charges against Donald Trump for inciting Wednesday's riot on Capitol Hill. Acting U.S. Attorney Michael Sherwin said Trump and others could face charges ranging from seditious conspiracy to rioting to insurrection. Sherwin also said prosecutors will charge any Capitol police officers found to be complicit with the rioters. Officers were filmed pulling barricades aside, holding hands with insurrectionists, and even posing for a selfie after they smashed their way into the Capitol. As the insurrectionists stormed the U.S. Capitol Wednesday, hundreds of fervent Trump supporters gathered for local rallies around the country. In Los Angeles, police are investigating after images circulated of a Trump mob attacking a black woman near Los Angeles City Hall. The young woman, Berlinda Nebo, was walking home when she came upon the rally and started documenting it on her phone. Dozens quickly surrounded her, demanding to know who she voted for and to take off her face mask. She was then brutally attacked by the group of white supremacists who shoved her, pulled out her hair extensions, and pepper sprayed her in the eyes. The bearded man pictured holding her from behind was one of several witnesses who intervened to help Nebo escape the out-of-control mob. Public health officials fear Wednesday's insurrection at the U.S. Capitol was a likely coronavirus super spreader event. Few of the marauders wore masks, and many of them celebrated their refusal to follow public health guidelines. This is far-right podcast host Clay Clark speaking at a rally of Trump supporters in Washington Tuesday.
Turn to the person next to you and give them a hug, someone you don't know. Go hug somebody. Go ahead and spread it out. Mass spreader. It's a mass spreader event. It's a mass spreader event. It's a mass spreader event.
In international news, Southern Africa is seeing a regional surge in coronavirus cases following a second wave in South Africa linked to a variant that many scientists believe is far more infectious. South Africa's confirmed cases have topped 1.1 million with over 31,000 deaths. A Johannesburg nurse described the dire situation.
Our mortuaries, as I speak to you, are full to capacity. In fact, it's in the longest where we've seen, you know, body bags on the floor.
Brazil's COVID-19 deaths have topped 200,000, the second highest death toll after the U.S. as health officials resist a lockdown amidst an intense surge. Japan's declared a one-month state of emergency in and around Tokyo as cases in the capital hit a record high of 2,500 Thursday. Residents are being asked to stay home and bars and restaurants to close at 8 p.m. Health experts say stricter measures are needed, with some suggesting a full national lockdown. An Iraqi court has issued an arrest warrant for President Trump for killing militia chief Abu Mehdi al-Mohandas in the same targeted drone strike that killed top Iranian general Qasem Soleimani just over a year ago. The strike on Baghdad airport was ordered by Trump, who later said it had taken out two men for the price of one. Earlier this week, Iran requested Interpol arrest Trump and other U.S. officials for Soleimani's assassination. Joe Biden has tapped Boston Mayor Marty Walsh for labor secretary. Walsh was a top union leader, heading up the Boston building trades before his career in politics and has the support of many prominent labor union figures. But others had hoped Biden would select another cabinet member of color, as several were reportedly up for consideration, including California Labor Secretary Julie Sue, who's Asian American. If Walsh is confirmed, Boston City Council President Kim Janey, who's African American, will become acting mayor, making her the first woman and first person of color to serve as mayor of Boston. In other cabinet news, Biden selected Rhode Island Governor Gina Raimondo as commerce secretary. The Revolving Door Project said the choice was profoundly troubling, tweeting, quote, Raimondo has a record of promoting fracking and cuts to public assistance programs, selling public pensions to Wall Street, and grossly mishandling Rhode Island's COVID-19 outbreak, they said. And Isabel Guzman has been nominated to head the U.S. Small Business Administration. She previously served in the same agency under Obama and is currently the director of California's Office of the Small Business Advocate. Guzman is the first Latina named to a cabinet-level post by Biden. She'll be involved in overseeing the implementation of the Paycheck Protection Program, a key part of the pandemic stimulus plan. Meanwhile, two members of Trump's cabinet have resigned in protest of Wednesday's failed coup attempt at the U.S. Capitol. Transportation Secretary Elaine Chao said in a statement she was deeply troubled by the insurrection. Education Secretary Betsy DeVos called the events unconscionable and said they were a, quote, inflection point. Chao and DeVos have been members of Trump's cabinet since just after his inauguration in 2017. They're the 11th and 12th Trump administration officials to quit after Wednesday's attack on the Capitol. Boeing's agreed to pay more than $2.5 billion to settle nearly two-year federal criminal investigation into Boeing's role in the two fatal crashes in Ethiopia and Indonesia that killed all 346 people on board 737 MAX airplanes. The Justice Department had accused Boeing of having concealed information about the aircraft. Michael Stumo, the father of Samia Rose Stumo, who died in the Ethiopian Airlines crash, told NPR, quote, this is a Boeing protection agreement. There's nobody being held accountable personally, he said. And in Guatemala, the former security head of a Canadian-owned mine has been convicted for the 2009 assassination of Adolfo Ich, an indigenous Maya Quechua community leader and land protector. Minor Padilla pleaded guilty Wednesday in what the Guardian newspaper described was a rare conviction over human rights violations linked to Canadian mining corporations in Central America. Padilla worked in the region's largest nickel mine in eastern Guatemala, which at the time of Ich's killing was owned by Hudbay Minerals. Ich was a leading voice of resistance against the mine and its destruction of indigenous territory. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman.
passe pas la plantée devant moi, je me sens humble et visible. Si tu cherches le trouble, je t'aurais avisé que tu pourrais être la cible d'une balle perdue. Tense pas donc, si c'est pas la peine, j'ai rien à perdre, je suis blindé. J'ai foncé tête première, j'ai fessé dans le mur de briques. Et son air bête, j'ai recommencé rien pour faire le comique. J'ai demandé juste de même, pourrais-tu au moins faire semblant que je suis drôle. Il s'est effondré sur moi, il s'est mis à pleurer sur mon épaule. Mon pauvre enfant qui me dit, allez, t'es fatigué, va te coucher.
Entre l'amour et la voix d'accotement,
Dis-moi où, dis-moi où c'est qu'on descend. Dis-moi où, dis-moi où c'est qu'on descend. Entre l'amour et la voix d'accotement, c'est où qu'on descend. Ça prend autant de folie que de courage pour descendre ensemble au 13e étage et fermer la porte au mauvais présage avec ta main comme seul bagage. Dis-moi. Où c'est qu'on descend? Dis-moi tout, dis-moi tout, que je calcule mon élan.
Donc une seconde archive, celle-ci date du 25 septembre 1979. Et Laura Adler, c'est vous, alors que vous aviez 29 ans. C'est notre façon à la radio d'exposer une petite photographie
là.
Sur celle-ci.
Ouais.
J'aimerais savoir, Laura Adler, ce que c'est une voix pour vous et ce que vous y lisez.
Ce que c'est qu'une voix pour moi.
Mm-hmm. Est-ce que ça peut nous permettre de lire de quelqu'un? Est-ce que ça peut même trahir de quelqu'un?
Alors écoutez, oui, je suis très sensible aux voix. La voix la plus importante, je ne vais pas vous étonner, c'est la voix de ma mère. Mais alors, il y a une particularité familiale, c'est que j'ai hérité de la voix de ma mère. Et mes deux sœurs ont la même voix que celle de ma mère. Autant vous dire que nous sommes trois sœurs avec la même voix que notre mère. Donc, quand nous étions jeunes et que nous étions un peu facétieuses, et comme j'étais l'aînée, j'étais la plus facétieuse, eh bien souvent, j'imitais la voix de ma mère. Quand en Afrique, les copines de ma mère téléphonaient et croyaient tomber sur ma mère en disant « Oh, alors Annie, comment ça va ?» Nanana. Et moi, j'imitais la voix de ma mère et ça faisait hurler de rire mes deux sœurs. Mais mes deux sœurs, en grandissant, ont aussi la même voix que ma mère. Et depuis, je suis habitée par la voix de ma mère, mais ce que j'entends toujours les voix. Que, par exemple, si je marche dans une rue à Paris, j'entends les voix. Je ne regarde pas les visages tout de suite, j'écoute les voix. Et il y a des voix, vous avez une très belle voix, je le répète pour la seconde fois, mais je ne vous vois pas. Mais je sais que vous avez une très belle voix. Mais ça m'intéresse plus d'écouter votre voix que de voir votre visage, parce que je peux deviner un peu qui vous êtes par votre voix, plus qu'en connaissant votre visage. Et d'autre part, et là j'ai passé toute une journée aujourd'hui à écouter des voix par visioconférence et à faire une réunion dans le cadre d'une de mes activités qui est de travailler au Centre National de la Cinématographie. Et donc j'avais en réunion Zoom pendant toute la journée une trentaine de voix et de visages, mais j'entendais plus les voix que les visages. Et il y a des voix qui me captivent et qui m'enchantent et que j'écoute plus, et il y a des voix que je ne peux pas supporter.
Et j'aimerais lire un tout petit extrait, un très court extrait de votre livre qui cette fois-ci porte davantage sur le théâtre et qui s'intitule « Tous les soirs », c'est publié chez Actes Sud. L'extrait va comme suit. « Le théâtre n'est pas une solution, ce n'est pas une alternative à la vie, c'est une manière de vivre, ce n'est pas un conservatoire de patrimoine ni une machine à divertir. C'est un lieu qui, dans une ville, rassemble deux, trois, quatre générations avec des attentes différentes. Dans les salles de théâtre viennent de plus en plus de jeunes qui, comme moi, toujours, sont à l'affût de ce qui peut les faire rêver. » Stimuler leur imaginaire, leur désir de réenchantement du monde. Moi, en lisant cette définition, j'avais l'impression qu'elle pouvait aussi s'appliquer à la radio. Je me disais, est-ce que la radio, c'est pas pour vous une manière de vivre, une manière de penser, en tout cas de jongler avec une forme d'intensité?
Je crois que la radio, pour moi, encore une fois, c'est une manière de vivre quand je l'écoute. C'est une manière de vivre pour moi quand j'en fais, parce qu'elle me donne l'extrême privilège, et je suis consciente de ce privilège, de pouvoir rencontrer des gens que j'admire. mais je sais très bien quelle est la modestie de mon rôle en tant que productrice, puisque je vais reprendre le distinguo qu'établissait Jacques Chancel tout à l'heure. Même si j'ai ma carte de journaliste, je me sens beaucoup plus productrice, et c'est ce qui est inscrit sur mon bulletin de salaire de Radio France, productrice. Je me sens beaucoup plus productrice que journaliste. Et donc, c'est une manière pour moi d'accéder à des gens que je n'aurais pas la possibilité de rencontrer et que j'admire. Et mon rôle de productrice, modestement, c'est d'être une passeuse, une transmetteuse entre mes propres passions et la personne que j'ai la chance de rencontrer pour pouvoir faire un entretien avec elle. Mais la radio, elle existe plus pour moi quand je l'écoute, c'est-à-dire très très souvent, que quand je la fais.
Comme auditrice et comme productrice, vous êtes habitée par toutes les paroles que vous avez un jour vu apparaître devant vous. Est-ce qu'il vous arrive de retourner écouter certaines voix comme on peut retourner feuilleter un album de photos?
Jamais.
Jamais.
D'abord parce que je déteste m'écouter. Je n'écoute jamais une émission que j'ai faite. Jamais. Mais au grand jamais. Ça me fait horreur rien que d'y penser. Et quelquefois, dans les archives choisies par Élodie Royer dans mon équipe de l'Heure Bleue, puisqu'elle choisit des archives que je vais pouvoir faire écouter à mon invité, elle ne me met pas forcément que quelquefois c'est des archives d'émissions que j'ai faites. Et même si ça dure 30 secondes d'entendre ma voix comme ça, sans le savoir, ça me fait horreur. Non, jamais je me réécoute. Mais jamais je réécoute non plus, sauf pour quand j'ai des missions particulières et que, par exemple, c'est le cas en ce moment, je suis en train de préparer un livre à partir d'entretiens que j'ai fait avec un grand intellectuel. Alors là, j'écoute l'intellectuel, si vous voulez, mais je zappe mes questions, oui. Non, je déteste m'écouter, mais je crois que je ne suis pas la seule. Hein.
Donc on vous a fait passer peut-être quelques minutes d'horreur en faisant réentendre votre voix alors que vous aviez
20 ans. Je ne l'ai pas reconnue, ma voix.
C'est vrai? Un sentiment d'étrangeté par rapport à votre propre voix. Laura Adler, vous avez aussi écrit plusieurs biographies, des essais, un dictionnaire, des récits, romans, des entretiens aussi qui ont été publiés. Qu'est-ce que ça représente, l'écriture, pour vous, dans votre vie?
Tout. Parce que je suis une auditrice, une grande auditrice, mais je suis aussi une grande lectrice et que je pourrais pas vivre sans lire. Donc pour moi, l'écriture, c'est une continuité de la lecture.
Et qu'est-ce qui vous jette dans l'écriture? Qu'est-ce qui vous fait venir à l'écriture?
L'écriture, avoir un projet d'écriture, c'est pour moi avoir une sorte de guide pour pouvoir orienter les lectures et le chantier d'écriture que je vais avoir pendant de nombreuses années. Et c'est pouvoir restituer l'admiration que j'ai eue vis-à-vis d'auteurs qui m'ont permis de vivre parce que je les ai lus. Par exemple, Marguerite Duras, elle m'a sauvé la vie à un moment où j'allais très très mal parce que par hasard, dans une bibliothèque d'une maison de vacances, je suis tombée sur un livre d'elle et qu'elle m'a redonné le goût de vivre. Et donc, passer 7 années et demie à essayer de relire tout Marguerite Duras et essayer d'écrire une biographie de Marguerite Duras, c'était une forme de restitution de l'admiration que j'ai pour elle. Par exemple, la philosophe Simone Veil, que j'ai beaucoup lue et que je continue à lire quasi quotidiennement, j'ai voulu écrire un exercice d'admiration pour elle, parce que pour moi, c'est quelqu'un de très important et qui habite ma vie. Donc, si vous voulez, j'écris pour essayer de redonner ce que les auteurs m'ont donné.
Mmh, dans un désir de transmission.
Voilà.
À la fois, votre travail d'écriture, mais votre travail à la radio, ça témoigne d'un véritable intérêt pour les autres. Vous aimez donc tremper à la fois votre stylo dans la mémoire et le vécu des femmes, entre autres, pour les raconter. Qu'est-ce qui vous intéresse dans toutes ces vies qui ne sont pas les vôtres, Laura Adler?
Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de m'oublier moi-même pour me mettre au service des autres. Donc effectivement, il y a une fonction de transmission. D'autre part, comme j'ai fait des études de philosophie et aussi d'histoire, des mentalités et que j'ai eu pour maître des gens comme Fernand Braudel, François Furet, Jacques Ozouf, Mona Ozouf, Michel Perrault, Jean-Paul Aron, etc., etc. Une histoire qui était donc une histoire qui essaye de restituer au plus près ce que l'histoire a de sensuel et de matériel et pas seulement d'intellectuel et de mémoriel. C'est-à-dire d'inscrire des corps, des mémoires, des visages dans une manière de ressentir la chair de l'histoire, disons. Et donc, par exemple, quand je fais un livre sur Françoise Giroud, j'essaye de restituer l'intensité de la guerre d'Algérie. Quand j'essaye d'écrire un livre sur Simone Veil, j'essaye de restituer ce que furent les années d'occupation. Quand j'essaye d'écrire un livre sur Marguerite Duras, j'essaye de restituer ce qu'a été l'Indochine au temps de la colonie. Donc j'essaye de contextualiser le mouvement de leur pensée et la source de leur imaginaire. Parce que je pense que personne d'entre nous, y compris les génies dont nous parlons, hein, comme Simone Veil ou Marguerite Duras, hein, ou Hannah Arendt, qui m'a beaucoup intéressée, aucun d'entre nous, y compris les génies, ne peuvent être coupés de ce qui furent leur présent et la manière de penser des autres qui pensaient en même temps qu'eux. Donc, faire des biographies, c'est donner aussi la chair de leur propre histoire individuelle en essayant de faire comprendre que leur histoire individuelle, par définition, elle est inscrite dans un mouvement général de pensée, de sensualité, d'émotion et de sensation. De faire finalement de l'histoire sensible et de prendre comme guide ces génies-là, tout en restituant, si je prends un mouvement comme métaphore, le mouvement de la caméra, de partir, disons, du visage et du corps de ce qui est mon guide, donc la personne que je vais biographier, et de faire un plan large à partir de sa propre histoire pour essayer d'embrasser la période que cette personne a traversée.
Vous venez de publier un livre, La voyageuse de nuit, qui traite cette fois-ci de la condition des âgés aujourd'hui. Et c'est un livre qui propose des changements de paradigme pour procéder à une revalorisation de cet âge de la vie. C'est un plaidoyer en faveur d'une association entre vieillir et vivre. Qu'est-ce qui rend, Laura Adler, cet âge de la vie heureux?
Ben d'abord, les progrès médicaux ont permis une nouvelle donne de civilisation en Occident, c'est-à-dire que, et c'est pour la première fois dans notre histoire, c'est-à-dire que pour la première fois, on peut vivre vieux et en bonne santé, mentale et physique. Ça n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à de très nombreuses personnes, entre 12 et 15 millions de personnes actuellement en France. Donc c'est une nouvelle donne. Vivre heureux, quand on vieillit, c'est d'abord, pour moi, ne pas regarder dans le rétroviseur, ne pas se réfugier dans la nostalgie, mais pouvoir profiter de ces années comme un nouveau cycle de vie, avec de nouvelles temporalités, avec un lâcher-prise par rapport au travail qui nous a beaucoup harcelés, nous les femmes. Non seulement on était des femmes indépendantes matériellement de nos compagnons, mais on était des femmes qui avons élevé des enfants. On a été des femmes amoureuses, on a été des femmes très prises aussi par ce qui était très important et qui demeure très important, l'amitié. Donc autant vous dire, des vies très bousculées, très suroccupées, etc., etc. Donc ce nouveau cycle de vie permet de choisir ce qu'on n'a pas pu faire dans nos étapes précédentes et d'assouvir des désirs et des besoins qu'on n'a pas eu forcément le temps de pouvoir assouvir. Donc c'est un temps de bonheur, puisque c'est un temps qui permet d'aller vers ce qui nous est le plus joyeux, le plus jubilatoire, le plus intense et le plus axé sur une recherche personnelle, intérieure et extérieure. Parce que extérieure, ça peut être le bénévolat, l'associatif, le temps passé avec ses enfants, ses petits-enfants, son amoureux, le temps des voyages, etc. Mais ça peut être aussi un temps intérieur. Et pour moi, c'est le fait de pouvoir relire beaucoup de philosophie, ce que j'ai fait quand j'étais étudiante et qui m'a nourri beaucoup, mais j'ai pas pu en faire assez après dans ma vie active. Ben, je renoue avec la philosophie. J'ai du temps aussi pour écouter de la musique. Je suis pas du tout mélomane, mais ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, de contentement, d'ajustement avec moi-même. Et ben, je prends beaucoup de temps pour essayer d'écouter de la musique. Je prends beaucoup de temps pour marcher aussi ou pour faire du sport. Donc, vous voyez, il y a des possibilités de faire des choses que je n'avais pas le temps de faire auparavant.
Et aujourd'hui, vous avez 70 ans. Lorsque vous regardez votre vie, est-ce que vous avez l'impression de l'avoir choisie, cette vie-là, que c'est bien la vie que vous avez désiré avoir, que cette vie vous appartient?
J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre parce que je crois qu'on choisit jamais sa vie. Je crois qu'on est très dépendant du temps qu'on va traverser. Et par définition, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait et tissé. Moi, je me projette toujours dans l'avenir. Je ne me retourne jamais vers mon passé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai traversé beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances aussi, qui ont été très graves. Et il a fallu que je reconstruise ma vie. Et c'est la vie qui l'a emportée, y compris après ces très très grandes souffrances. La vie l'a emportée. Je ne sais pas ce que c'est que la vie. Je peux vous dire que la vie emporte tout. C'est une force de vie instinctive qui fait que même quand on est au creux de la vague, et quand on croit qu'on ne va pas avoir la force de traverser la nuit et que le lendemain matin, on ne sera peut-être plus là, ben finalement, la vie l'emporte. Et le bleu du ciel, il y a toujours un moment où on va le regarder. Donc, ma vie n'est pas achevée. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, la vie, elle est plus forte que tout. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que je suis arrivée dans une génération qui a construit son propre destin. Je suis arrivée, j'avais 18 ans en mai 68, j'ai pu descendre dans la rue, j'ai pu, avec les autres et dans une communauté de destin et de révolte, construire dans le « nous » et pas dans le « je » ce que nous voulions. Et cette génération, elle continue à travailler dans le « nous » et pas dans le « je ». Et je suis très, très inquiète, personnellement, pour les jeunes générations, à cause du peu d'attention que nous portons, pas nous personnellement, mais les autorités politiques et les autorités de tutelle aujourd'hui, qui font pas du tout attention à la jeunesse. Et j'ai l'impression qu'elle est sacrifiée aujourd'hui. Et c'est horrible d'être jeune avec ces deux confinements en France. Je trouve que le gouvernement n'en fait pas assez et qu'il va falloir se préoccuper de notre jeunesse. Et c'est notre jeunesse qui a des leçons d'avenir pour nous, vieille génération. Et j'espère que notre jeunesse va s'en sortir et que si jamais nous, les vieux, on peut essayer de les aider en étant très modestes, eh bien voilà, je pense que c'est la tâche la plus importante aujourd'hui. C'est d'essayer d'aider de la manière la plus efficace possible, d'aider les jeunes dont nous avons besoin pour pouvoir leur donner les clés de l'avenir.
Oui, réenchanter le monde.
Réenchanter le monde qui est bien compliqué et bien difficile. Et c'est très, très... Voilà, il faut leur donner le goût de l'avenir. Nous avions le goût de l'avenir. Et en ce moment, le monde est voilé de noir et même de gris foncé, les jours optimistes. Mais nous avons besoin des jeunes, de leur inventivité et de leur force mentale, psychique, politique pour réinventer cet avenir.
Et votre avenir à vous, si j'ai bien compris, ce sera votre toute dernière année à la radio. Vous êtes là du lundi au jeudi, vous n'êtes plus là le vendredi. Alors Laure Adler, comment est-ce qu'on se prépare à quitter la radio? Parce que c'est une mort symbolique hein, qui peut-être est sous-estimée, mais qui a une certaine importance, la disparition d'une voix radiophonique qui forge notre oreille et qui forge notre pensée. Alors comment vous vous préparez à la disparition de votre voix? Comment votre voix va nous prévenir, disons, qu'on ne va plus l'entendre?
Ben écoutez, de toutes les façons, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec ma directrice et avec ma présidente qui m'ont demandé de recommencer cette année. Jacques Chancel disait « S'il faut que j'arrête, ça ne sera pas un problème. S'il faut que j'arrête, ça ne sera pas... Je ne sais pas si ça ne sera pas un problème pour moi. En tout cas, ce que je souhaite, c'est bien arrêter. Je veux dire par là, c'est d'arrêter dans une communauté de concertation. Je souhaite ne pas être foutu à la porte. Je souhaite devancer le moment où on va me dire « on n'a plus besoin de vous ». Je souhaite établir un acte d'amour et non pas de rupture dans la manière de quitter la radio. La radio est tellement importante pour moi. La maison de la radio est une maison. Les gens qui y travaillent sont mes compañeros et mes compañeras. Dans tous les sens du terme et depuis très très longtemps, y compris les plus jeunes d'entre eux, c'est très important pour moi, cette communauté-là de travail, qui est une communauté aussi d'amitié, d'échange, de dialogue, etc. Donc je ferai ce qu'on me dira, mais je souhaite que ça se passe dans un état d'amour, de réciprocité, et qu'on prépare ma sortie pour que ça soit le moins douloureux possible. Et j'ai proposé à ma présidente aussi, pas pour moi seulement, mais pour nous toutes et pour nous tous, je trouve qu'il y a une très grande violence à la maison de la radio quand on s'en va, pour que tout d'un coup, comme vous l'avez dit, pas seulement pour la voix, hein, mais pour les techniciens avec qui nous travaillons tous les jours et sans qui nous n'existons pas, pour les réalisateurs avec qui je partage tout, mes états de pensée, mes interrogations, mes réflexions, etc. Et les personnels administratifs et ce qu'on appelle le personnel de production, eh bien, pour toutes ces catégories de personnel, j'ai proposé à la présidente de Radio France qu'il y ait une sorte d'atelier où quand les gens s'en vont pendant une année, ils fassent des ateliers pour les nouveaux entrants pour qu'ils transmettent leur savoir. Parce que quand vous avez 40 ans de savoir dans les différents domaines, vous avez beaucoup de choses à transmettre. Alors ça ne serait pas des ateliers où il y aurait obligation de venir, mais pour celles ou ceux qui rentrent à la radio, et tout le temps ils rentrent des nouvelles personnes dans toutes les catégories socio-professionnelles de la radio, qui est une ruche extraordinaire. Eh bien, moi, j'ai proposé cette hypothèse. Donc, voilà, on va voir si elle est acceptée par notre présidente de Radio France.
Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous fermez le micro à la fin d'une émission, Laure Adler, disons, lorsque vous êtes en studio?
Je suis épuisée. Ouais. Je suis rincée. Je ne tiens pas debout. Alors, j'ai une bouteille de Coca-Cola qui me permet de tenir. C'est comme ça que j'essaye. Je bois du Coca, je ne peux pas me lever tellement je suis épuisée. Vous voyez l'effet que ça me fait. Alors, je raccompagne mon invité et je suis épuisée. Je ne peux pas parler.
Eh bien, merci beaucoup, Laure Adler. Merci.
Merci à vous.
C'était Jour et Nuit. Ce podcast se réécoute sur le site de Magnéto, magnétobalado.com et sur toutes les applications de podcast. Merci à toute l'équipe de réalisation, Céline Terret, Daniel Capey, Loïc Leroux-Gaulier. Quant à nous, on se retrouve le 16 décembre avec le cinéaste Félix Rose.
Thank you. Time.
C is for
cauliflower.
Confusion. Creation.
Pickle.
All right.
Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
CKUT 90.3 FM.
Vacunas COVID-19, ¿y usted?
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Montreal singer-songwriter Adelaide is on the rise. Listen to her critically acclaimed debut album, What We Say in Private, and follow-up EP, Woman Here, now available on all platforms. Follow her to be the first to hear when new music drops. Learn more at adaleamusic.com. Funded by Factor.
You're listening to CKUT
90.3 FM radio in Montreal. Made in Brazil is starting now. I am your host, Daniel Shore. Made in Brazil is always broadcast for you on your 90.3 FM radio in Montreal every first